France Musique.
Et tout de suite, les sagas musicales. Corinne Schneider vous emmène littéralement sur les chemins de Bach en compagnie des musiciens de l'ensemble Pygmalion. Étape du jour, Lübeck.
C'est seulement après 2 ans passés à Arnstadt que Jean-Sébastien Bach décide d'initier un voyage extraordinaire. Un voyage qui le marquera pour le reste de ses jours, une rencontre indispensable. Nous sommes donc à l'automne 1705, Jean-Sébastien Bach a 20 ans.
Raphaël Pichon, aux sources de Bach.
5e épisode, la rencontre avec Dietrich Buxtehude.
À Arnstadt, il était habité par une telle soif d'entendre autant de bons organistes que possible qu'il se rendit à pied, à Lübeck, pour y écouter attentivement l'organiste de la Marienkirche, Dietrich Buxtehude. Il y séjourna près de 3 mois pour son plus grand bien et revint ensuite à Arnstadt. Nécrologie de Bach par Carl-Philippe Emmanuel, Leipzig, 1754.
Bach est autorisé à quitter son poste d'organiste pour seulement 4 semaines. Il part à la fin de l'automne, en cette fin du mois d'octobre 1705.
Comme les forêts, les cours d'eau d'un pays ont un air de famille, tels la Vera, la Guéra, l'Elbe. Usant des commodités que lui offrait le hasard, tantôt sur le même et tantôt sur les rives, il suivit les courbes nonchalantes d'une des plus jolies rivières, s'arrêtant quelque temps dans les villes grises, blanches ou rouges, qui se présentaient sur sa route, goûtant au délicieux petit vin de terroir, jetant un coup d'œil sur les vieilles églises, examinant leur mobilier ou essayant leurs orgues. Il dormit au chaud et au sec, sur le foin entassé dans un cloître abandonné.
À Lübeck, Buxtehude, en grand visionnaire, a lancé une immense série de concerts que l'on appelle les Abendmusiken, les musiques du soir, pour accompagner ce temps si particulier de l'attente de Noël, ce temps de l'Avent. Bach ne reviendra à Arnstadt qu'à la fin du mois de janvier 1706, plus de 3 mois plus tard.
Tout en marchant, il commençait à comprendre. Comprendre. Ce serait le premier pas indispensable vers l'élargissement du grand passé et du petit présent. Une compréhension plus profonde du passé, de la nature, de l'être même, d'une pénétration de toute chose par la connaissance de soi.
Alors, quelles peuvent être les raisons d'un voyage dans cette grande ville hanséatique ? Bien sûr de rencontrer Buxtehude, le plus grand maître des organistes d'Allemagne connu jusqu'alors. Jean-Sébastien Bach a 20 ans, lui approchait ses 70 ans. On sait que sa succession à la Marienkirche, où il officie, était ouverte. Peut-être Bach voulait aussi briguer ce poste que Buxtehude occupait et se positionner pour sa succession. Mais pour cela, il fallait accepter le mariage avec la fille de l'organiste. Celle-ci est alors âgée de 30 ans, 10 ans de plus que Bach à cette époque-là. Les 3 mois qu'il a passés à Lübeck ont pour sûr été une période extraordinaire pour le jeune Jean-Sébastien Bach. Être au contact du grand Buxtehude, une rencontre immense entre 2 grands génies, prendre part sûrement à différents concerts, à ces Abendmusiken, peut-être avoir la possibilité de lire énormément de musique contenue dans les différentes bibliothèques de la ville, la bibliothèque personnelle de Buxtehude, et peut-être aussi revenir à Arnstadt avec, dans sa besace, de nombreuses copies des différentes œuvres déterminantes dans son apprentissage de compositeur qu'il a pu copier ici à Lübeck.
À mesure qu'il avançait sur sa route, son esprit s'ouvrait aux ressources du passé, de lui-même, de tout ce qui était possible à son esprit. Il entrevoit un espace libre, ouvert, que doit remplir une matière à découvrir, à créer par lui-même. Walter Pater, Portraits imaginaires.
Qui a dû sûrement le marquer en arrivant à Lübeck, spécialement en cette période de l'Avent, ce sont ces soirées. Ces fameux Abendmusiken étaient l'occasion de réunir tous les musiciens de la cité et donc de déployer des forces instrumentales parfois gigantesques. On parle d'un grand orchestre, peut-être un grand chœur, mais aussi les timbales, les trompettes, différents instruments obligés et aussi une tradition de cori spezzati, c'est-à-dire ces pièces à plusieurs chœurs, différents chœurs que l'on faisait dialoguer dans différentes tribunes de l'église. Et c'est donc cette notion aussi de spatialisation du son qui nous vient d'Italie et notamment des églises vénitiennes. Toute cette richesse vocale et instrumentale a dû être sûrement un moment à marquer au fer rouge dans la découverte des grandes possibilités vocales pour la musique de Jean-Sébastien Bach. La musique d'orgue de Dietrich Buxtehude, Bach en avait déjà une grande connaissance. Mais s'asseoir à la tribune de l'orgue, improviser avec Buxtehude et organiser différentes joutes, visiter les églises de la ville, découvrir aussi la facture des grands orgues qui composaient la ville à cette époque-là. Une période sûrement fascinante.
La musique d'orgue et de clavecin de Buxtehude est influencée par la musique italienne de deux manières. D'une part, il y a la construction de ce qu'on appelle la canzone, au centre de l'œuvre, donc un motif unique, souvent avec des notes répétées. Canzone, ça veut dire chanson en fait.
Éric Lebrun, organiste.
Donc il fait l'objet d'une première exposition, puis ensuite, le même sujet est traîné de manière ternaire, dansante. Voilà, ça c'est, j'allais dire, l'essence même de la canzone. Donc Buxtehude, par ailleurs, il écrit aussi des canzones. Et puis, il y a aussi l'influence de la grande toccata baroque italienne, Frescobaldi, ou plus tard, Froberger, qui n'est pas italien, mais enfin, qui reçoit cette influence, Michelangelo Rossi aussi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a l'exorde, donc cette première partie où le compositeur prend vraiment aux cheveux l'auditeur, écoute-moi, ce que j'ai à te dire est très important, n'est-ce pas? Et ça, on le trouve dans les toccata italiennes. Et puis aussi la péroraison, peroratio à la fin, ça c'est typique. C'est pareil, toutes ces œuvres plurisectionnelles, avec une grande liberté de ton, on les retrouve au début et à la fin. Donc si je reprends un petit peu le discours, on a d'abord l'exorde, donc cette très belle toccata manualitaire en sol majeur que nous venons d'entendre. Puis ensuite, on va trouver un motif en contrepoint, j'ose pas dire trop fugué, parce que c'est pas vraiment le terme de fugue qui convient à cette époque, hein. C'est vraiment, ça fait partie d'une manière organique de l'œuvre. On trouve très souvent aussi au centre une petite signature du compositeur, c'est-à-dire un moment de liberté où tout d'un coup il se passe quelque chose de très émouvant, et quelquefois Buxtehude écrit avec discrétion, con discrezione, ça veut dire à la discrétion de l'interprète, on est libre. Et ensuite, on trouve cette fameuse fugue ternaire, et enfin, donc, la péroraison à la fin, où ça peut être un point d'interrogation, ça peut être une affirmation, par exemple, lorsque il fait entendre une chaconne, on va en parler un petit peu après. Voilà, et en tout cas, c'est une manière de conclure qui donne une nouvelle perspective. Donc ça, c'est vraiment la forme par excellence que Buxtehude va développer et que Bach va reprendre à son compte dans un premier temps. Alors notamment dans ses toccatas pour le clavecin, hein, mais aussi dans quelques œuvres d'orgue, pas si nombreuses que ça, mais de jeunesse. Dans Prélude, Fugue et Chaconne, donc le prélude en ut majeur, Books WV 137, on a une partition qui est d'une extrême concentration. Elle est en plusieurs volets, là aussi, mais elle est basée sur un motif unique, en fait, qui est un motif de tétracorde, quatre notes, do, si, la, sol. Parce que, en fait, tout est contenu un petit peu dans cet intervalle. Et on va trouver, à la fin, donc, une forme que Buxtehude chérissait par-dessus tout, qui est la chaconne. Donc, pour conclure, il va reprendre cet élément do, tom, tom, ti, do, ta, ti, tom. Donc, do, si, la, sol, en fait. C'est une des sortes d'ornementation de ce motif qui va féconder toute la partition. Et là-dessus, il va donc faire entendre, au-dessus de ce principe unique qu'est la basse, une multitude de polyphonies différentes. Donc, c'est vraiment l'illustration qu'un principe unique va engendrer, va la création dans toute sa diversité. Et donc là, nous avons un pédalier très virtuose, très ostentatoire. Dès le début, Buxtehude prend la parole avec le pédalier. L'orgue que nous entendons de l'église Sainte-Marie d'Elsinger, alors en français on dit Elsener, hein, c'est le château du roi Hamlet qui est juste à côté, c'est l'endroit où Buxtehude doit faire ses études. Il y a toujours la maison de la famille Buxtehude là-bas, et c'était aussi un de ses premiers postes d'organiste où il est resté 7 ans, avant d'aller à Lübeck. L'instrument a été reconstruit en fait assez récemment, à partir des quelques tuyaux de façade qui restaient, avec une étude très approfondie de la facture de cette région. Les registres sont toujours à la même place. Alors c'est intéressant parce que on peut reproduire les gestes de l'organiste, mélanger tel ou tel jeu avec une seule poignée de main. Et ça, c'est très précieux. Alors l'instrument a un côté très clair, très soigné. Et ça, c'est typique de la facture danoise de cette époque. C'est pas exactement la même chose qu'en Allemagne du Nord. En Allemagne du Nord, on va trouver des instruments extrêmement polyphonique, avec une grande variété de jeux, des mélanges de jeux, tout spécifiquement des anches douces aussi. On trouve des plans sonores très différenciés. Alors par rapport à la Thuringe, où on trouve rarement un positif de do, un instrument qui est dans un seul buffet en général, là, en Allemagne du Nord, on a généralement un grand positif de do, et puis une pédale qui est très différenciée sur les côtés. Dans le cas de l'orgue de Lübeck, on a même grande pédale et petite pédale, c'est-à-dire des jeux de détails pour faire entendre un cantus firmus, par exemple, ou bien alors les 32 pieds d'anche et de fond, et tout ça, en fait, sur des plans sonores différents. Alors, il faut dire que les instruments que Buxtehude a connus, et puis Bach, donc, lorsqu'il s'est rendu à Lübeck, étaient, en fait, des instruments construits en plusieurs strates. Donc, on avait d'abord un orgue médiéval, et puis ensuite un ajout de d'autres plans sonores, un troisième clavier, ce qu'on appelle la petite pédale, qui a été ajoutée après. Et par exemple, à Lübeck, l'instrument que Bach a connu, c'est plutôt l'orgue de Stillwagen, qui date de 1637-1741. Donc un instrument qui a été construit, et ça se voit même dans le buffet, on voit du style Renaissance, on voit du style un petit peu plus tardif dans le mobilier. Et Buxtehude va devoir attendre 1705, c'est-à-dire à peu près à l'époque où Bach va se rendre à Lübeck, pour que enfin il y ait quelques travaux qui soient réalisés. Mais il n'obtiendra pas la reconstruction par Schnitger, qui était le grand facteur d'orgue de cette époque, qui lui va construire un instrument qui n'est pas très loin, donc à la cathédrale de Lübeck, mais qui n'existe plus puisque Lübeck a été bombardé et donc tout ce patrimoine a disparu, à part quelques instruments magnifiques, comme l'orgue Stillwagen, là aussi, de l'église Saint-Jacques à Lübeck, sur lequel avait été enregistrée une partie de la première intégrale de Bach par Helmut Walschau au sortir de la guerre de 40.
Musique, Corinne Schneider.
Oh, quelle chose magnifique que le son clair et émouvant d'une cloche qui, très haut, au-dessus de nos têtes, nous parle à tous, du sein de la nuée, comme une puissante voix venue du ciel. La douceur accueillante de son chant qui, s'élevant bien au-dessus des murailles de la ville, salue les pauvres voyageurs fatigués et ranime en eux la confiance en Dieu et la confiance dans les hommes. Son chant est une invitation consolante pour ceux qui sont loin de leur patrie et pour les pauvres orphelins. Et il élargit spirituellement le mur d'enceinte de la ville pour ceux que la nuit trouve sur la route solitaire, sans autre aide que celle de Dieu. Et cela, je l'ai profondément senti hier soir, alors que j'étais encore sur la route, sans asile et sans espoir, et que mon courage était sur le point de défaillir, tandis que je voyais le soleil rougeâtre s'abaisser à l'horizon et que la forêt était déjà silencieuse. J'avais marché pendant des semaines, sans m'arrêter un seul jour, et mes souliers n'avaient presque plus de semelles. Tandis que je m'endormais avec des pensées tristes, je fus éveillé par le son aimable et clair d'une cloche qui sonnait l'Angélus du soir. Je me sentis alors pénétré d'une merveilleuse confiance et me dirigeai d'un trait vers la ville. Clémence Brentano, La chronique de l'écolier itinérant.
Le choral BWV 715, Allein Gott in der Höhe sei er, Gloire à Dieu au plus haut des cieux, dans l'interprétation d'Éric Lebrun, qui enregistre depuis plusieurs années avec Marie-Ange Laurent l'intégralité des œuvres de Bach chez Montabaur. Il ne fait aucun doute que sur le chemin du retour de Lübeck à Arnstadt, Jean-Sébastien soit passé par Hambourg et par Lunebourg pour revoir Reinken, Böhm et d'autres connaissances. Mais une fois arrivé à Arnstadt, à la fin du mois de janvier 1706, une pluie de reproches l'attend de la part des autorités de la ville. Il est convoqué au mois de février et doit s'expliquer, entre autres griefs, sur les raisons d'une absence aussi longue. Même si Bach avait pris soin de se faire remplacer par Johann Ernst, l'un de ses cousins.
L'organiste de l'église Neuve est interrogé par le consistoire de Arnstadt et il lui est demandé où il est allé récemment si longtemps et auprès de qui il en a demandé l'autorisation. Monsieur Bach dit qu'il est allé à Lübeck pour y apprendre diverses choses relatives à son art, mais qu'il en avait demandé auparavant l'autorisation à monsieur le surintendant. Le surintendant déclare qu'il n'avait demandé que 4 semaines et qu'il est resté 4 fois plus longtemps. Monsieur Bach dit espérer que l'orgue a été tenu entre-temps par celui qu'il avait désigné à cet effet, son cousin, de telle manière qu'il ne puisse y avoir aucune plainte. Le consistoire répond qu'il faisait depuis ce voyage d'étonnantes variations dans ses chorales, qu'il y mettait des accords étranges, de telle sorte que la communauté en était fort troublée. En outre, il est tout à fait surprenant qu'il n'ait fait depuis aucune musique, ce dont la cause est assurément qu'il s'entend mal avec ses élèves. Enfin, l'organiste Bach avait jusqu'alors préludé trop longuement. Mais depuis que monsieur le surintendant lui en a fait le reproche, il est tombé de suite dans l'extrême inverse et prélude désormais trop brièvement. Les réprimandes du consistoire de Arnstadt à l'encontre de Johann Sebastian Bach, 21 février 1706.
Alors, ce qui est très surprenant dans ces préludes de chorale...
Benjamin Allard, claviériste.
On ne sait pas, puisqu'on n'était pas là à l'époque, si Bach allait aussi loin par la pratique de l'harmonisation de ces chorales pendant que les fidèles avaient à les chanter. Et ça, ça lui est reproché évidemment, parce qu'il perd carrément... l'assemblée, qui ne sait plus où elle est, qui râle. Voilà, et on imagine très bien le jeune Bach se moquant au clavier de tout le monde, perdu, et essayant de redonner raison à l'assemblée, puisque dans l'assemblée luthérienne, c'est l'orgue qui dirige et qui a le dernier mot quand les gens sont décalés. Il n'y a absolument pas de chef, il y a une inertie, évidemment, qui se pratique, parce que l'orgue doit toujours guider par son rythme et par ses harmonies. Et donc, non seulement les harmonies sont très osées, avec des septièmes diminuées partout, des tritons, des renversements de septièmes diminuées, des altérations parfois improbables, des dissonances, des retards. Et donc, on peut aisément imaginer que ça agace les fidèles. Et comme si ce n'était pas encore suffisant et compliqué... est suffisamment gênant pour exister. Là, on sent une envie d'exister, je pense, chez lui et de développer son art comme il l'entend. Eh bien, il improvise entre chaque période des guirlandes complètement fantastiques qu'il a probablement entendu, puisque dans les fantaisies de chorale, il peut arriver que des guirlandes assez virtuoses, des arpèges, des choses assez impressionnantes et brillantes, fortissimo probablement, eh bien il déploie ces choses-là, ce qui fait que là on ne sait même plus entre les périodes comment commencer à chanter la période suivante. Donc on ignore s'il jouait carrément de cette façon en accompagnant, s'il préludait comme ça uniquement, puisque les plaintes étaient quand même assez fréquentes et qu'on l'a convoqué pour ça, je pense qu'il devait faire les deux. Mais c'est assez étonnant, disons.
Que son inspiration était curieuse, nouvelle, expressive et belle lorsqu'il improvisait. Avec quelle perfection ne jouait-il pas? Tous les doigts étaient également agiles chez lui, tous atteignaient la même pureté d'exécution. Il avait inventé des doigtés tellement commodes qu'il n'éprouvait aucune difficulté à exécuter les passages les plus délicats. Avant lui, les virtuoses n'avaient guère utilisé le pouce, ni en Allemagne, ni à l'étranger. Il sut très bien s'en servir. Il jouait des deux pieds au pédalier, des morceaux tellement compliqués que bien des clavecinistes habiles auraient eu du mal à les interpréter avec cinq doigts. Nécrologie de Bach par Carl-Philippe Emmanuel, Leipzig, 1754.
Marie-Ange Laurent joue ce choral extraordinaire sur l'orgue Yves Fossard de Bourg-en-Marlotte, construit il y a maintenant une douzaine d'années. Alors Bourg-en-Marlotte, c'est ma première tribune d'organiste, ça se situe entre Fontainebleau et Nemours.
Éric Lebrun.
Alors, c'est intéressant parce que Bach rentre de Lübeck, et en fait Buxtehude avait l'habitude de préluder au choral d'une manière très originale, de telle sorte qu'il a fallu noter sur des panneaux les numéros des chorales qui devaient être chantées. Cet usage remonte donc à Lübeck, aux années de Buxtehude, et il est encore maintenant adopté dans les paroisses protestantes, et puis aussi dans certaines paroisses catholiques en Alsace. Par exemple, au Mont-Saint-Odile, on a cette manière de faire. Et donc, ça prouve que les gens étaient perdus lorsqu'ils entendaient des harmonies trop hardies, ou parce que il faut faire attention à une chose, nous avons la connaissance des chorales de Buxtehude, mais la plupart de la musique qui était donnée à Lübeck, c'était de la musique improvisée. Donc, toute une partie de cette musique qui nous échappe, et de même pour la musique de Bach, et de même pour les compositeurs français de cette époque. Et en fait, voilà, il nous manque tout ce pan tout à fait considérable de musique qui était donnée en direct. Cependant, nous avons quelques témoignages, par exemple, ce choral que nous venons d'entendre, qui montre ce dont Bach était capable, probablement sous l'influence de Buxtehude, c'est-à-dire, en fait, une sorte d'expressionnisme incroyable pour mettre en valeur par des fusées, par des gammes, par des harmonies hardies, les mots, en fait, du choral qu'il allait chanter. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre du poème symphonique, si on veut, en miniature, avec une minute de musique. Et ça, c'est tout à fait étonnant. Et alors, on a pas mal d'exemples de ce genre de choses, par exemple, dans les chorales Kinberger. Et là, on se dit, mais bon, ça devait quand même être quelque chose, les petits préludes que Bach improvisait. Alors, Il est bien sûr grondé. On lui demande de faire des choses plus simples. Et là, il fait des choses tellement sèches qu'il se fait de nouveau gronder.
France Musique, Corinne Schneider.
Depuis son retour de Lübeck, la situation empire à Arnstadt. Bach est à nouveau convoqué par les autorités à l'automne 1706. Outre son style à l'orgue, on lui reproche également sa mauvaise entente avec les élèves du lycée, choristes et instrumentistes indisciplinés pour lesquels il doit composer de la musique pour l'office. Il se met sans doute déjà à composer de la musique vocale d'église pour eux, mais le niveau d'exigence qui est désormais le sien ne peut plus s'accommoder des imperfections et surtout de la nonchalance de ces jeunes gens. On le surprend également en train de faire de la musique à la tribune avec une jeune femme, ce qui est interdit dans le règlement de son église. Cette demoiselle n'est autre que sa cousine, Maria Barbara, et les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre mèneront à leur mariage 11 mois plus tard. Mais pour l'heure, la situation devient insoutenable à Arnstadt. Bach étouffe. Il se sent à l'étroit dans cette petite église qui n'est pas l'église principale de la ville. S'il avait été nommé à la Liebfrauenkirche ou à la Oberkirche, alors là, il aurait pu composer la musique vocale qu'il commence à imaginer depuis son retour de Lübeck.
Cette Oberkirche, elle a un destin
Raphaël Pichon.
Assez particulier. Donc c'était tout d'abord, si j'ai bien compris, un monastère franciscain au XIIIe siècle, qui ensuite aura connu un grand incendie, et puis au XVIe siècle aura connu un des longs séjours de rien d'autre que Martin Luther lui-même, avant l'annonce de la Grande Réforme. Et je crois aussi que, évidemment, c'est une chance à l'image, puisque ce projet est aussi un projet que l'on veut tenter de partager le plus largement possible. Là, on a une magnifique équipe autour de François-René Martin, qui va vous permettre aussi de goûter par l'image à tous les magnifiques détails qui se glissent, parfois d'ailleurs cachés, dans cette église, qui est d'ailleurs un peu de briquet de broc, qui a longtemps été totalement close, fermée au public, et notamment pendant tout le temps de la guerre froide, ou en tout cas jusqu'à la chute du mur. Et ensuite, petit à petit, les habitants ici, notamment guidés par Jan et Judith, qui se sont investis pleinement dans le besoin absolu de faire revivre cette église. Il m'a raconté qu'il a eu la visite en 2008 d'un homme qui voulait absolument rentrer dans l'église. L'église n'était pas encore réouverte. Et cet homme lui a dit, mais est-ce que vous savez que cette église porte une mémoire extraordinaire? Il faut la réouvrir, il faut y donner des concerts. Et cet homme n'est autre qu'un grand personnage de l'aventure de la redécouverte de Bach, c'est l'Américain Joshua Rifkin. Et donc, ils se sont lancés dans ce projet de trouver des moyens pour permettre la réouverture de cette église. Et ils ont fait un premier concert en 2009 qui a fait l'objet d'un enregistrement que Kian m'a offert.
Ce qui est assez spécial, c'est de combiner la générale technique pour ces films qu'on est en train de tourner avec la générale du concert live qui aura lieu ce soir. Mais on est très content de voir ce projet arriver au bout du chemin.
Parce que là, ce qui se passe, Sabine Devielle, c'est que vous enchaînez tous les moments de déplacement, puisque ce concert va être, si j'ai bien compris, avec une spatialisation, ce que vous aimez beaucoup faire à Pygmalion.
Oui, c'est quasiment une chorégraphie. On compte pas mal sur les copains de pupitre pour nous indiquer qu'on part à droite, à gauche, qu'on monte dans la chaire, qu'on va dans les petites coursives sur la tribune. Donc oui, c'est un peu chorégraphique.
Sabine serait à la chaire pour la première strophe. Fin de la première strophe, tu descendrais avec Thibaut qui va te suivre et d'aller devant l'autel tout là-bas, okay, pour faire juste le tout dernier.
À la toute fin.
D'accord. Deuxième strophe, ce serait donc Perrine, Lucille, Antonin et Renaud qui, eux, seront en haut à la tribune. Première ligne, juste derrière la toute première rambarde. Okay. Et nous, les autres, ici, depuis en bas. Avec l'idée suivante. C'est le quatuor qui est donc en haut, Perrine, Lucille, Antonin, Renaud, qui chante la deuxième fois, qui correspond à la strophe 6. Ensuite, dernière strophe, avec, on va voir si ça marche, tout le monde.
Un lieu comme celui-là, ça s'apprivoise. D'abord, on est impressionné, ému d'être dans un lieu où
D'une certaine manière, tout a commencé, tout a pu exister pour Jean-Sébastien Bach. Et donc, on a ce temps qui était indispensable à la fois pour inventer, trouver le meilleur dispositif dans lequel présenter toutes ses œuvres, jouer avec l'espace. Et cette spatialisation, elle est là pour tenter de révéler de manière encore plus directe le message que portent certaines de ses œuvres, notamment par des jeux d'écho, par des jeux de dialogue d'une tribune à une autre, et aussi de jouer avec cet espace sonore qui peut parfois surprendre. C'est parfois des toutes petites choses, hein, mais cela peut surprendre, cela peut émouvoir, cela peut créer des réactions acoustiques. Donc c'est vrai qu'on a eu ce temps, et ce temps est très précieux, et je dirais encore une fois qu'il bouleverse aussi nos interprétations, parce que on interagit pas de la même manière d'une acoustique à une autre. Et ici, tous ces paramètres viennent bousculer parfois notre lecture de toutes ces œuvres. Et encore une fois aussi, au-delà de l'église et de l'espace acoustique, s'imprégner aussi de cette petite ville, d'Arnstadt, de sa douceur, de sa quiétude, et cette sensation du temps qui est très différente, l'écoulement du temps, où tout semble ici plus lent. Et donc, je crois que toutes ces choses-là, elles ont des conséquences presque organiques sur un rythme cardiaque peut-être plus bas, plus lent. Et tous ces ingrédients, tous ces paramètres sont passionnants pour avoir encore l'impression de se rapprocher de ce jeune Jean-Sébastien Bach qui aura passé quelques années déterminantes ici.
Thank you. Thank you.
La soprano Sabine Devielle, le contre-ténor Paul-Antoine Benos-Jean, le ténor Antonin Rondepierre et la basse Christiane Himmler. L'ensemble Pygmalion sous la direction de Raphaël Pichon en concert en Thuringe au printemps 2024. C'était à la Oberkirche d'Arnstadt. Nous écoutions leur interprétation de la cantate 150, Nach dir, Herr, verlangt mich, Toi Seigneur, vers qui j'aspire, considérée par les musicologues comme la plus ancienne des musiques d'église retrouvées de Jean-Sébastien Bach. Mulhausen sera la 6e étape de notre périple aux sources de Bach, une série proposée par Corinne Schneider et réalisée par Jean-Philippe Navarre. Jean Brémond, attaché de production, Éric Boisset au son et au mixage, Caméra Lucida pour la captation des concerts en Thuringe, avec la participation de Raphaël Pichon, des musiciens et musiciennes de Pygmalion, d'Éric Lebrun,